Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Camille Grodidi avec vous en compagnie d'Anne Arbutson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Quelques titres en Guinée. Les autorités sanitaires parlent de deux nouvelles zones contaminées par le virus à Ebola.
Koya, à 50 km de Conakry et Kélouané, à plus de 600 km de la capitale, ont enregistré leur premier cas de malade d'Ebola.
Zakaria Camara nous en dira davantage depuis Conakry. Le processus de paix et de réconciliation se poursuit au Mali.
Les Maliens se préparent à tous les nouveaux avant l'adoption du pré-accord des pourparlers d'Alger qui aura besoin des critiques et suggestions des Maliens avant son adoption en accord global de sortie de crise.
Tous les détails avec Yassim Traoré et puis la stratégie américaine contre les djihadistes de l'État islamique va se préciser davantage cette semaine avec un discours du président Barack Obama. Mais tout d'abord, le journal sur la voie de l'Amérique. En ce lundi 8 septembre, les États-Unis offrent des équipes militaires pour aider dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest, a annoncé dimanche le président Barack Obama. Les États-Unis doivent faire face à la flambée de fièvre à virus Ebola. Ils doivent en faire une priorité de sécurité nationale, a-t-il dit. Et par ailleurs, les experts croient que l'on n'est pas loin d'un vaccin contre le virus. Cher Rubin Dorcil.
De nouvelles études montrent qu'un vaccin expérimental testé sur des singes peut être efficace pendant 5 semaines ou jusqu'à 10 mois s'il est utilisé en conjonction avec une injection de rappel. Dans une étude publiée dimanche dans la revue Nature Medicine, des chercheurs des Instituts nationaux de la santé aux États-Unis disent que le régime de vaccin expérimental produit une immunité durable contre le virus mortel. La maladie a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest, où les pays les plus touchés sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. La communauté internationale se mobilise pour enrayer la propagation du virus à Ebola. Il y a 3 jours, l'Union européenne a annoncé l'octroi de 140 millions d'euros et hier, le président Barack Obama a offert l'assistance de l'armée américaine. Selon Barack Obama, la flambée de fièvre Ebola devrait être une priorité de sécurité nationale. Il a averti que cela prendra encore des mois pour contrôler l'épidémie et a déclaré que si des efforts ne sont pas faits maintenant, elle pourrait se propager à travers l'Afrique et dans le reste du monde. Entre-temps, les mesures comme la mise en quarantaine et la fermeture des frontières sont critiquées par la communauté médicale. En Sierra Leone, les habitants ne pourront pas quitter leur maison entre le 18 et le 21 septembre. Une mesure similaire dans un quartier de Monrovia, au Libéria, avait donné lieu, on se le rappelle, à des émeutes le mois dernier.
Le président du Parlement nigérien accuse les autorités de son pays d'avoir projeté de l'assassiner, accusation lancée dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ama Amadou a fui son pays après que le gouvernement a demandé son audition par la justice dans le cadre d'une enquête sur un trafic présumé de bébés pour lequel l'une de ses épouses a été écrouée.
Le principal opposant au président Mahamadou Issoufou a quitté Niamey par la route il y a à peu près une semaine. Il s'est rendu au Burkina Faso, puis a gagné Bruxelles, puis Paris, indique l'agence France Presse. Il dément une nouvelle fois toute participation de lui ou de son épouse à un trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Jeudi, la Cour constitutionnelle nigérienne a jugé que le bureau du Parlement du Niger était compétent pour autoriser l'arrestation de son président.
En Somalie, le gouvernement a limogé son chef du renseignement. Abdoulaye Mohamed Ali est accusé d'avoir failli à sa mission. Aucune explication n'a été fournie après l'annonce faite dimanche. Entre-temps, le pays est en état d'alerte maximum suite à la mort du leader des Chebabs somaliens, Ahmed Abdi Godane, dans une frappe aérienne américaine lundi dernier. Selon le ministre somalien de la Sécurité, Khalif Ahmed Ered, le groupe pourrait envisager des attentats contre les installations publiques en représailles au raid qui a tué Godane, le leader d'Al-Shabaab. A été remplacé par Abu Ubaïd Ahmed Omar.
C'est aujourd'hui qu'est prévue la rentrée scolaire 2014-2015 en République démocratique du Congo, mais dans certaines provinces, des enseignants exigent leur prise en charge totale par le gouvernement. Au Nord Kivu, les parents des enfants qui étudient dans les écoles catholiques ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ne veulent plus payer les enseignants en lieu et place du gouvernement. Notre correspondant Primo Pascal Rudaigua nous en dit plus.
Pas question de reprendre suspendre l'année scolaire, c'est la décision de l'Assemblée générale des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques tenues à Goma à la veille même de la rentrée scolaire. Kabbalah Lataka André est le président de l'Association des parents d'élèves catholiques pour les doyennés de Goma.
Les parents viennent de décider que comme il y a négociation entre les enseignants et le gouvernement, qu'ils puissent attendre la conclusion de leurs négociations avant d'envoyer les enfants à l'école. Nous ouvrons une brèche, nous laissons les enseignants et leurs employeurs discuter. Dès qu'ils auront terminé à discuter, nous allons rentrer pour faire une évaluation.
La ministre provinciale de l'éducation au Nord-Kivu, Adèle Bazizane Maheshe, a promis de s'y investir, mais en attendant qu'ils reprennent le chemin de l'école.
J'invite tous les enseignants de la province du Nord-Kivu à se préparer avec sérénité, afin de recevoir ces enfants qui leur seront confiés par le parent.
Le député national Juvenal Emunubo, élu de Walikale au Nord-Kivu, juge légitime les revendications des enseignants et appelle le gouvernement à un dialogue franc pour trouver un terrain d'entente.
C'est dans l'obligation du gouvernement d'engager un dialogue et au cours des dialogues de donner les assurances comme quoi cette fois-ci les promesses seront tenues.
C'est depuis la Deuxième République que les parents payent la prime aux enseignants. Ils ne veulent plus porter ce fardeau à partir de cette nouvelle année scolaire, mais il reste à savoir si les parents dont les enfants n'étudient pas dans les écoles catholiques vont respecter le mot d'ordre de ne pas envoyer les enfants à l'école. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Les élections locales au Congo-Brazzaville auront lieu le 28 septembre. La commission électorale a commencé à déployer son matériel. D'autres détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguelan Goussou.
860 sièges de conseillers municipaux et départementaux sont en jeu le 28 septembre prochain. À la commission électorale, son président Henri Bouka assure que tout se prépare bien. Des candidats se bousculent déjà à déposer leurs dossiers de candidature. Le cas de Didier Clotaire Boutindi, un candidat indépendant qui croit à l'égalité des chances.
Il y aura des délégués des camps dans le bureau de vote. Je pense que l'élection locale ne crée pas souvent des problèmes dans un pays parce que c'est proportionnel. Que le meilleur gagne, tous les candidats sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas de candidat supérieur.
Mais pour toi, ces élections cachent bien des malaises. Pendant le vote de la loi électorale au Parlement, le MCDDI et le MUST, alliés du pouvoir, l'avaient rejeté alors que l'UPADS avait carrément claqué la porte. Aujourd'hui, le parti de l'ancien président Pascal Lissouba fait volte-face et participera à ces élections. Quant à Clément Mirassa de l'opposition, le boycott est la seule façon de dire non à ces élections illégales.
Nous ne partons pas à ces élections, nous allons continuer à nous battre, mais nous disons, nous n'accepterons pas cela pour les présidentielles. Les élections locales sont convoquées sur du faux, parce que le président de la République n'est pas à Brazzaville, des textes ont été signés. Faux parce qu'on a publié un décret alors qu'il n'y a jamais eu un conseil des ministres évoquant cette question. Faux parce que le décret qui a été pris est antérieur à l'adoption de la loi. Alors nous disons que trop c'est trop.
Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour déloger dimanche des rebelles chiites appelés Houthi qui bloquaient la principale route d'accès à l'aéroport de Sanaa, la capitale. Certains médias ont parlé d'un mort. Par ailleurs, l'aviation du Yémen a attaqué des rebelles dans la province d'Al-Jaf, tuant au moins 13 personnes.
Les protestataires exigent que le gouvernement démissionne et rétablisse les subsides au carburant. Le président Abed Rabo Mansour Hadi a dissous son cabinet la semaine dernière. Il a promis d'inclure des Houthis au sein du nouveau gouvernement et de nommer un nouveau premier ministre, mais ses assurances n'ont pas mis fin aux manifestations.
La stratégie américaine contre les djihadistes de l'État islamique va se préciser davantage cette semaine, avec entre autres un discours du président Barack Obama. Issia Kaba.
Le discours de Barack Obama tiendra lieu de réponse à ses critiques, notamment dans le camp républicain, qu'il accuse de ne pas avoir de stratégie pour faire face à l'État islamique. Dans son entretien, hier avec la chaîne de télévision NBC, le chef de l'exécutif américain a précisé certains repères.
We are going to be, as part of an international coalition, carrying out airstrikes.
Nous allons, dans le cadre d'une coalition internationale, mener des frappes aériennes en soutien aux opérations sur le terrain des troupes irakiennes et kurdes. Nous allons contribuer à l'élaboration d'un plan pour les aider à reprendre des territoires dont s'est emparé l'État islamique. Et M. Obama d'ajouter, dans les prochains mois, nous allons arrêter l'élan des djihadistes, dégrader systématiquement leurs capacités, réduire le territoire qu'ils contrôlent et finalement, nous allons les vaincre. Ces déclarations du président Barack Obama interviennent deux jours avant une rencontre avec les dirigeants du Congrès pour discuter de la question. Il prévoit ensuite un discours mercredi, à la veille du 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. La lutte contre l'État islamique s'organise aussi dans le monde arabe. Lors d'une réunion au Caire dimanche, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont affirmé que leur pays prendront les mesures nécessaires pour faire face aux groupes djihadistes. Toutefois, la déclaration finale n'appuie pas explicitement les bombardements américains contre les militants.
Dans l'est de l'Ukraine, les résidents de Donetsk faisaient état dimanche d'un pilonnage intense près de l'aéroport qui a provoqué l'incendie de deux maisons.
Cela a suscité de nouvelles craintes qu'un cessez-le-feu signé vendredi par les rebelles et le gouvernement de Kiev ne soit sur le point de s'effondrer. Les deux parties se sont rejetées mutuellement la responsabilité des violences. Par ailleurs, des affrontements près de la ville de Mariupol ont coûté la vie à un civil et fait trois blessés.
Merci Anna Botson, au micro Camille Grodidier pour Le Monde Aujourd'hui sur les ondes de La Voix de l'Amérique. Il est 6h11, temps universel. En Guinée, les autorités sanitaires parlent de deux nouvelles zones contaminées par le virus à Ebola. Le président Alpha Condé a appelé à une mobilisation nationale pour vaincre le virus, mais il a exclu toute fermeture de frontières avec le Libéria et la Sierra Leone, deux autres pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique. Le point avec Zakaria Camara.
Koya, à 50 km de Conakry, et Kélouané, à plus de 600 km de la capitale, ont enregistré leur premier cas de malade d'Ebola. La Guinée peine à stopper l'évolution de l'épidémie, mais renforce la riposte. Désormais, il s'agit d'élargir la lutte en tenant compte du Libéria et de la Sierra Leone, deux autres pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Selon le président guinéen Alpha Condé, la Guinée a fait des progrès dans la réponse à Ebola, mais pour lui, la lutte doit être commune.
Nous, on est arrivé presque à la fin. On voulait même fermer le centre. Et donc, malheureusement, au Libéria, là où il y a eu la maladie, c'est la zone où il y avait les rebelles avant. Donc, il n'y a pas tellement de structures gouvernementales, il n'y a pas d'hôpital. Donc, les gens traversent la frontière. Mais ce sont nos parents, ce sont nos frères. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de nous battre pour la Guinée, pour la Sierra Leone et pour le Libéria. Tant qu'il y aura un cas d'Ebola ici, en Sierra Leone ou en Libéria, on n'est pas sorti de la galère. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de traverser la frontière.
Depuis l'apparition du virus Ebola en Guinée en janvier, plus de 600 cas sont confirmés, parmi lesquels 50 agents de santé, dont 26 sont décédés. Le président Condé, qui s'adressait aux responsables de son parti, le RPG, a fait un avertissement aux médecins.
Beaucoup de médecins sont morts, ou des infirmiers ou des chauffeurs, parce qu'ils ont porté les gants. Quand tu finis malade, tu enlèves le gant, tu jettes, tu laves les mains, mais ils ne le font pas. Je l'ai dit à Donka, il s'est conduit, je vais mettre un militaire à chaque étage. Aucun médecin ne peut rentrer s'il n'a pas de gants.
Devant la persistance de l'épidémie, les Guinéens restent hantés par la peur. Il faut informer, sensibiliser, à rappeler le président Alpha Condé, informer les Guinéens comme cette jeune fille qui ne semble pas connaître les modes de transmission du virus.
J'ai peur quand nous sommes en groupe, si quelqu'un est infecté, la parole qu'il mène vers moi, j'ai peur si Ebola ne m'attrape pas.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Camille Grodidier avec vous sur La Voix de l'Amérique. Le processus de paix et de réconciliation se poursuit au Mali, où plusieurs activités se sont déroulées ce week-end autour de ce thème. Les Maliens suivent de près les pourparlers d'Alger, mais que pensent-ils de la réconciliation? Eh bien, notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
Le mot réconciliation n'est pas nouveau pour les Maliens. Pour les leaders religieux, ce mot a tout un sens pour les communautés maliennes. Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako.
C'est vrai, la société moderne autorise seulement celui qui a tort à se cacher et en utilise même la justice. À trouver des avocats qui vont le défendre. Que l'on trouve des circonstances atténuantes, d'accord, mais qu'on n'aille pas jusqu'à dénier des faits réels. Minkera ou Kera ou Kafo. La grande question qui se pose à moi aujourd'hui, c'est que est-ce que les Maliens ont compris le drame qui les menaçait et qui plane encore sur leur tête?
Il est vrai que nous avons focalisé le problème de la partition du pays entre le Nord et le Sud. Je pense que tout observateur doit constater que la division se trouve sur plusieurs fronts, sur l'ensemble du territoire.
Tous les Maliens sont unanimes qu'il faut des rencontres à la base pour faire la réconciliation des communautés. Cela peut passer par plusieurs canaux. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile.
On ne peut pas réussir la réconciliation sans ces canaux communautaires parce que nous avons prôné toujours la réconciliation inter- et intra-communautaire. Parce que c'est le premier pan de réconciliation. Et aussi, nous travaillons bien à connaître les communautés, à connaître tous les types de conflits qui ont gangréné ces communautés depuis très longtemps. Quelque part, il faut arriver à ce qu'on se dise la vérité. Il faut aussi vraiment qu'on arrive à nous réconcilier, soit par la justice, soit par nos autres canaux traditionnels de pardon que nous connaissons.
Bien qu'étant impliquées dans le processus de dialogue et du retour de la paix, les femmes comptent jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la réconciliation. Safiatou Moulay Aïdara, présidente des femmes de Al-Karama.
On partage les mêmes idées et on a le même souci de cette réconciliation nationale qui nous tient à cœur aujourd'hui. Parce que ce Mali est à nous tous. Il faut que nous, Maliens, on arrive à débattre de nos problèmes ensemble. Et pourquoi on associe les femmes? Parce que c'est la branche la plus fragile de notre société. Donc elle doit être au même niveau d'information que nous, les femmes aussi, qui sont au sud et au nord. Donc on doit s'associer pour débattre de nos problèmes et trouver les solutions.
Déjà, la Fédération des organisations féminines du Mali est à pied d'œuvre pour entendre les femmes et recenser leurs préoccupations. Damele Oulematousso, présidente de la FENASCOF.
Ça permettra aux femmes de se positionner, ça permettra aux femmes de donner leur avis, leur réaction et leur point de vue par rapport à la situation. Et on va prendre tous ces inputs-là, n'est-ce pas, qu'on va intégrer dans nos rapports pour alimenter un peu les réflexions et puis les processus en cours.
Les Maliens se préparent à tous les nouveaux avant l'adoption du pré-accord des pourparlers d'Alger, qui aura besoin des critiques et suggestions des Maliens avant son adoption en accord global de sortie de crise. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Ici Washington, au Togo, deux détenus politiques, Pascal Bojona et Takcha Gnassimbe, ont porté leur cas devant la Cour de justice de la CEDEAO. Dans l'affaire de l'ancien porte-parole du gouvernement Pascal Bojona, la requête a été déposée aux fins d'examen des cas de violation des droits humains. Et puis, la seconde requête, dans l'affaire du demi-frère du président, Takcha Gnassimbe, vise à ordonner à l'État togolais de verser les dépens auxquels il a été précédemment condamné. Lola Akomatsri a joint depuis Abuja, siège de la Cour de justice de la CEDEAO, maître Gilles Benoît Afangbeji, l'un des membres du collège des avocats des deux accusés.
Nous sommes actuellement à Abuja au Nigeria, où nous avons déposé à la Cour de justice de la communauté CEDEAO une requête au nom de M. Pascal Akusolu-Bojona et de M. Pakena Simbe, ses co-condamnés. Par ailleurs, nous avons également déposé une requête des avocats qui avaient eu à défendre Pakena Simbe. S'agissant du dossier de M. Pascal Akusolu-Bojona, nous voulons vous dire que ce dernier est victime de beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. À ce jour, M. Akusolu-Bojona est actuellement à la prison civile de Thiévier en violation flagrante de la loi, et tout cela constitue des cas de violation des droits de l'homme que nous avons relevé dans la requête que nous avons déposée auprès de la Cour. Nous avons également déposé une requête séparée afin que la Cour puisse se prononcer de façon accélérée sur sa demande. Pour ce qui est de M. Pakena Simbe, nous avons eu à plaider son dossier ainsi que celui de tous ceux avec qui il a été condamné par devant la même Cour de justice de la communauté CEDEAO, qui le 3 juillet 2013 a rendu un arrêt ordonnant à l'État togolais de prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires en vue de faire cesser les violations des droits de l'homme dont ils sont victimes. Par ailleurs, la Cour de justice de la communauté CEDEAO a reconnu que le procès était inéquitable et que les droits de la défense avaient été violés. Là, il y a un problème juridique qui se pose. Et je dis que lorsque, par exemple, une juridiction internationale constate qu'un procès qui a été tenu dans un pays membre de la CEDEAO n'est pas équitable, tout ce qui a été fait tout au long de ce procès tombe. Et selon la résolution des Nations Unies, le procès inéquitable doit respecter ce que nous appelons la restitution. La restitution solution, c'est de mettre la personne dans l'état dans lequel elle était avant d'être arrêtée. C'est ce que nous avons plaidé. Nous avons également relevé que l'État n'a fait que exécuter de façon partielle l'arrêt, c'est-à-dire que l'État togolais a été la partie qui a succombé au procès. Dans ces conditions, il est tenu de payer les dépens. Mais jusqu'à ce jour, il a refusé de payer ses dépens. Et nous disons que c'est contraire au règlement même de la Cour. Et nous pensons que la Cour même ayant prescrit à l'article 59, la procédure accélérée va bientôt se pencher sur toutes ces requêtes-là et nous aviserons.
Et est-ce que, pour le cas de l'affaire Pascal Boudion, est-ce que vous avez déjà rencontré votre client en prison?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois à la prison civile de Thiéviers. Il a le moral. Il dit qu'il ne veut pas une justice de miséricorde, mais une justice juste, équitable, qui puisse prendre en compte tous les cas de violation dont il est actuellement victime. Pour ma part, je crois que ça augure que M. Pascal Boudjona est prêt à affronter tout ce qui va lui arriver. Et dans ces conditions-là, nous ne pouvons que le soutenir.
Maître Gilles-Benoît Afangbeji, l'un des membres du Collège des avocats des deux accusés, a été joint par Lola Akomatsri.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
On enchaîne avec les sports en compagnie de Chérubin Dorsil. Salut Chérubin.
Salut Camille.
Parlons d'abord des matchs de qualification de la CAN 2015.
Comptant pour le groupe B, samedi, l'Algérie a battu l'Éthiopie 2-1 et hier dimanche, le Mali a fait l'essentiel face au Malawi, score 2-0 au coup de sifflet final. Le Mali, pour l'instant, est en tête du groupe. Cela pourrait changer bien sûr mercredi quand les deux s'affronteront. Auparavant, le même jour, on assistera à la rencontre Malawi-Éthiopie.
Alors le foot ce matin, c'est aussi la phase qualificative de la Coupe d'Europe.
La première très grosse surprise des qualifications pour l'Euro est venue hier dimanche du Portugal, battu d'entrée par l'Albanie dans le groupe I sur le score d'un but à zéro. Autre résultat enregistré hier, l'Allemagne bat l'Écosse 2-1, la Géorgie tombe 1-2 face à l'Irlande, tandis que la Pologne inscrit un carton de 7-0 face à Gibraltar. Je me souviens, Camille, d'une équipe à laquelle les Polonais ont infligé le même score en juin 1974, il y a donc 40 ans. C'était mon pays d'origine, Haïti, à la Coupe du Monde de Munich. Enfin, toujours en Europe, hier, la Roumanie a battu la Grèce 1-0, la Finlande a renvoyé les îles Féroé et Brodouille 3-1 et l'Irlande du Nord l'a emporté 2-1 face à la Hongrie. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la phase finale, ainsi que le meilleur deuxième sur l'ensemble des groupes. Les 8 autres deuxièmes disputent des barrages de qualification.
Et l'Espagne affronte la Macédoine ce lundi.
Oui, un match qui intervient après une défaite en rencontre amicale face à la France, 1-0 jeudi. L'Espagne est dans le groupe C avec l'Ukraine, la Slovaquie, le Bélarus et le Luxembourg.
On enchaîne avec le tennis. Serena Williams, indomptable à Flushing Meadows.
La tête de série numéro 1 de l'US Open faisait face en finale à une amie, la Danoise Caroline Wozniacki. Finalement, c'était une domination totale de la part de la cadette des sœurs Williams. Score 6-3, 6-3 contre un adversaire visiblement incapable de rivaliser avec la puissance de Serena. Avec ce trophée, Serena Williams a aussi fait un peu l'histoire. Elle fait désormais partie d'un groupe d'élite ayant remporté 18 titres de Grand Chelem dans leur carrière. Les deux autres qui avaient réalisé cet exploit, Martina Navratilova et Chris Evert, se sont retrouvés aux côtés de la championne américaine à la fin du match pour une photo souvenir. « Qui suis-je pour que mon nom soit mentionné dans ce groupe ?» a déclaré Serena Williams dans une interview post-match. Humilité, grâce, beaucoup de joie surtout, et le salut traditionnel pour son père après cette victoire, la troisième d'affilée en finale de l'US Open, pour un total de 6 trophées à Flushing Meadows, et l'aventure continue.
Et on termine avec le basket. Alors comment se présente la Coupe du Monde Messieurs à Barcelone?
Eh bien, la Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Messieurs de basket en battant l'Australie 65-64 dimanche à Barcelone. Elle affrontera demain mardi la Lituanie, qui avait auparavant repoussé les assauts de la Nouvelle-Zélande 76-71. Voilà pour les sports.
Et maintenant, on enchaîne avec la musique. Bien sûr, c'est Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Camille.
Alors, comme toujours, je m'imagine que tu nous réserves un bon son, n'est-ce pas?
Ça, Camille, tu peux le dire. Britney Spears chante « Born to make you happy ».
Les nouvelles de Britney Spears, Roger.
Mais écoute Camille, à Las Vegas, ses fans savaient que son nouveau son, allait être fort pour les clubs. Mais beaucoup ne s'attendaient pas à ce que son 8e album soit une collaboration avec sa sœur Jamie Lynn Spears, qui a fait un comeback musical récemment. Et alors, on y trouve un peu de country music. Et maintenant, les fans de Britney, les fans se posent la question de savoir si la star du pop n'est pas en train de se métamorphoser.
Ah, ça c'est bien de voir les sœurs s'entendre. Alors, elles ont collaboré dans quel morceau ?
Alors Camille, les sœurs ont collaboré dans Chilling With You, une chanson un peu country, et dans la vidéo, tu vois les deux sœurs en train de chanter et danser, alors sans inquiétude. Dans une interview récente, Britney dit qu'elle savait dans son cœur, quand elle composait cet album, que sa sœur interviendrait dans un des morceaux.
Merci Roger et bonne journée.
Bonne journée Camille, see you.
Roger Muntuk, que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Britney Spears, on quitte la musique, mais avant de vous abandonner, Anne Albertson est revenue dans le studio pour un dernier rappel des titres de l'actualité.
Les États-Unis offrent des équipes militaires pour aider dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, qui a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest, a annoncé dimanche le président Barack Obama. En Somalie, le gouvernement a limogé son chef du renseignement, Abdoulaye Mohamed Ali, est accusé d'avoir failli à sa mission. Au Yémen, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour déloger dimanche des rebelles chiites appelés Hati qui bloquaient la principale route d'accès à l'aéroport de Sanaa, la capitale. La stratégie américaine contre les djihadistes de l'État islamique va se préciser davantage cette semaine avec, entre autres, un discours du président Barack Obama. Et dans l'est de l'Ukraine, les résidents de Donetsk faisaient état dimanche d'un pilonnage intense près de l'aéroport.
Merci à Anne Albertson, au micro Camille Gros-Didier sur La Voix de l'Amérique. Et merci à vous tous qui nous avez accompagnés ce matin. Une très bonne journée.
Les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.